Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
C'est l'heure des enjeux internationaux.
C'est ça, quand du passé c'est ça et que tarde un futur. Justement, lendemain de week-end électoral en Afghanistan, après un vote prolongé d'une journée, 9 millions d'électeurs pour 36 millions d'habitants. Après un report de 3 années, c'est un test à bien des égards pour les autorités afghanes. Et on en parle avec vous, Gilles Doron-Soreau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone, professeur de sciences politiques à Paris 1, co-auteur avec Adam Bachko de Syrie, anatomie d'une guerre civile, spécialiste de l'Afghanistan bien sûr. Alors ce test, il est à multiples niveaux, hein, crédibilité pour l'exécutif, il y a les intimidations des talibans, 400 attaques diverses samedi, et puis les retards logistiques, hein, donc le vote a dû être prolongé d'une journée. Pour l'instant, selon les estimations de la commission électorale indépendante, on aurait une participation d'environ 44%. Deuxièmement, c'est une étape pour rétablir la légitimité du pouvoir central, puisque outre le mandat des députés qui a expiré 2014, la légitimité du gouvernement d'Union issu d'une présidentielle contestée la même année est bancale. On surveillera la fraude. Et puis finalement, c'est un test pour les Occidentaux, leur volonté de financer le scrutin, pour le rapport de force, surtout coalition taliban plus largement, alors que la majeure partie du pays échappe toujours à Kaboul et que des négociations plus ou moins ambiguës, sont menées par intermittence depuis 2 ans, particulièrement en ce moment avec les États-Unis. Gilles Doron-Soreau, l'enjeu n'est peut-être pas prioritairement le résultat, même si on suivra l'ouverture aux femmes, notamment 417 candidates. Mais d'abord, peut-être ce triptyque test pour l'exécutif, sécurité, logistique et puis fraude.
Alors, pour ce qui est de la sécurité, les talibans, finalement, ont lancé assez peu d'attaques. Il y a eu quelques attentats à Kaboul, mais globalement, on est à moins d'une vingtaine de morts, ce qui pour l'Afghanistan n'est pas particulièrement élevé. Pour ce qui est de la logistique, ça a été problématique puisque les machines de biométrique ont été introduites très tard. Parfois, les bureaux de vote les ont reçus juste à la veille du scrutin, quelques heures avant parfois. Donc là, on a eu des problèmes techniques, d'où le fait que les élections ont été prolongées hier, dimanche. Ça indique aussi que il va y avoir des contestations très probablement. Alors les premiers résultats qu'on a sur la participation, il y a des sources différentes apparemment, mais je pense que la participation ne sera pas de 44%, ce qui paraîtrait un peu élevé, sera probablement plus basse.
Ah oui, parce que j'avais 4,5 millions à peu près de votants sur le site de la commission électorale, enfin le Facebook de la commission électorale.
Oui, alors sur une population de 36 millions d'habitants, à peu près, on ne sait pas vraiment, mais enfin à peu près 36 millions d'habitants, sachant que l'âge médian est de 18 ans, vous voyez qu'on va arriver probablement à une participation de 3-4 millions, ce qui effectivement par rapport aux votants potentiels est relativement faible.
Et alors qu'est-ce qu'il faut en induire? On va parler des fraudes, mais concernant la crédibilité, juste avec ce chiffre de scrutin, sachant que effectivement tous les bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir, c'était 2000 sur 5000 samedi, il y en a 400 qui devaient ouvrir dimanche, finalement à peine 2/3 ont ouvert quand même, on peut dire que c'est pas forcément une réussite, même par rapport aux autres scrutin.
Alors il y a probablement une dégradation par rapport au dernier scrutin de 2014. Il y a deux choses. Premièrement, il y a des zones qui maintenant échappent totalement au vote. Certaines zones de l'est de l'Afghanistan, certaines zones du sud, ou en milieu rural, il est pour les gens matériellement impossible d'aller voter, sauf à risquer leur vie. Donc ça, c'est un premier élément. Et ces zones tendent à s'élargir. Il y a un deuxième élément qui est que les votants sont désillusionnés par rapport à la politique afghane. Trop de corruption, trop d'accusations, y compris contre les commissions de contrôle électoral. Donc je pense qu'il y a un retrait d'une large partie des Afghans. Il faut en particulier se méfier de certains reportages qui disent « oui, il y avait des files d'attente très longues à Kaboul ». Oui, mais Kaboul, c'est très particulier. C'est pas parce qu'il y a des files d'attente dans quelques bureaux de vote que ça suppose une forte participation.
Oui, parce qu'il y a des zones qui ont complètement échappé au vote, comme effectivement la région, la province de Kandahar, hein, où sont très présents les talibans, qui avaient d'ailleurs boycotté le scrutin, interdit d'aller voter, prévenu. Sur la question de la crédibilité, est-ce qu'il n'y a pas aussi, un petit côté contre-productif presque de ce scrutin en ce qui concerne la commission électorale indépendante? Vous avez dit il y a beaucoup de doutes, il y a eu toute la question des fraudes largement évoquée par les journaux, le fraude aux cartes électorales, là les Tasqira qu'on peut acheter. Des questions concernant la représentation des minorités, l'exclusion de certains candidats. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre la crédibilité au cours de ce scrutin ?
La crédibilité, elle a été perdue en 2014, quand après les élections présidentielles, les candidats ont refusé les résultats. Enfin, surtout Abdullah a refusé les résultats en accusant son concurrent, Ashraf Ghani, qui est devenu effectivement président, d'avoir fraudé. Et les fraudes ont été absolument massives en 2014. Finalement, ça s'est réglé par un compromis qui a été négocié à l'ambassade des États-Unis, un compromis où Abdullah a eu une espèce de rôle de premier ministre à peu près. Donc on voit bien que dès 2014, on a eu un problème massif par rapport à la crédibilité des élections. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre 2014 et aujourd'hui, il devait y avoir normalement, il était prévu une réforme électorale. Or on s'aperçoit que tout a été bloqué, à la fois en raison de l'inefficacité de la communauté internationale, mais aussi des décisions inter-afghanes, et que donc le résultat, c'est qu'on arrivait avec l'introduction de machines biométriques quelques heures avant le scrutin. On est dans une situation où les institutions chargées de garantir la neutralité des élections sont elles-mêmes très contestées, notamment par tous les partis, pratiquement par tous les partis politiques, qui ont déjà à l'avance indiqué qu'ils ne reconnaîtraient probablement pas le résultat.
Bon, à suivre les résultats, en tout cas très tardivement, un résultat provisoire en novembre, résultat définitif en décembre. En tout cas, du côté taliban, est-ce qu'il faudrait dire à contrario qu'ils sont vraiment dans une position de force, hein, ils contrôlent, je crois, 66% du territoire, et ils ont donné un coup très fort contre la coalition, contre l'exécutif et l'antiterrorisme afghan, en tuant un général très réputé, Abdul Razik, à Kandahar précisément, là c'était le 17 octobre.
Alors, pour le contrôle des talibans, il y a plusieurs façons de mesurer le contrôle, mais de n'importe quelle façon que vous mesuriez, il y a une montée des talibans. Voilà, après 66%, oui, 66%, ce sera à peu près mon estimation si on se base sur la pénétration des districts. Maintenant, si c'est en termes de gestion de la population, c'est probablement inférieur. La deuxième chose, c'est que les talibans ont réussi deux très beaux coups stratégiques. Un cet été, c'est la prise de Razni, qui est une ville à 150 km environ au sud de Kaboul. C'est une grande ville.
Entre Kandahar et Kaboul.
Entre Kandahar et Kaboul. Donc ça a été un coup terrible pour le régime, puisque pendant une semaine, la ville a échappé au gouvernement. Et le deuxième coup, c'est l'assassinat de Razi, qui était le commandant de la police de Kandahar, qui était l'homme clé qui avait réussi à verrouiller le système de sécurité sur la province. Et c'est quelqu'un qui avait réussi à repousser les talibans de façon extrêmement brutale, mais efficace. Et sa mort, ça fait des dizaines de fois que les talibans essayent de le tuer, hein. Finalement ils ont réussi, et sa mort déséquilibre profondément tout le système de sécurité gouvernementale.
Oui, oui, c'est vrai que c'est pas que pour l'anecdote, hein. Il y avait eu 29 attaques précédemment contre lui, paraît-il. Et qu'est-ce que ça veut dire justement, cette attaque précisément, alors même 5 jours après que des négociations avaient été menées entre les Américains et des représentants talibans à Doha au Qatar, avec un nouveau commandant en chef des forces de la coalition générale Miller, avec un nouvel émissaire envoyé spécial. Est-ce qu'il y a vraiment des négociations, ou alors les talibans jouent vraiment sur deux tableaux là ?
Les talibans jouent sur deux tableaux, mais c'est normal. Les négociations, ça ne veut pas dire que la guerre s'arrête. Ce qui est absolument décisif, et ce qui marque vraiment un tournant de la guerre, c'est que les Américains ont accepté deux choses. Un, de négocier sans aucune précondition. C'est-à-dire que les talibans n'ont pas accepté de reconnaître la constitution afghane, ils n'ont pas accepté de participer aux négociations, ils n'ont accepté aucune des préconditions que les Américains avaient toujours posées à l'ouverture de négociations. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le gouvernement légal d'Afghanistan a été tenu totalement à l'écart, qui est aussi une demande des talibans. Donc, vous voyez que là, on est dans une situation de rupture. Les Américains sont en train de négocier en court-circuitant le gouvernement légal de Kaboul. Pourquoi ? Parce que, un, ils sont convaincus qu'ils ne peuvent plus rétablir la situation en Afghanistan. Deux, ils veulent absolument sortir, et ça suppose à un moment donné que s'il y a un accord, ça va se faire sur le dos du gouvernement d'Ashraf Ghani.
Eh ben, écoutez, à suivre la réaction de Kaboul, le dépouillement des résultats, ça fait beaucoup. Et puis ces négociations éventuelles, de nouvelles réunions dans le futur, disent un communiqué des talibans. En tout cas, merci beaucoup pour aujourd'hui, pour ces explications. Gilles Doron-Soro, je rappelle, professeur de sciences politiques à Paris 1. On renverra à votre ouvrage sur le site internet des enjeux internationaux. Merci.